Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30, 17h, sur Campus Grenoble, 90.8. Mathilde Cariou.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 11e édition de Microcité, votre émission d'actualité hebdomadaire. Nous sommes en direct des studios de Campus Grenoble. Au programme de cet après-midi, du sport, le confinement vous a peut-être donné des envies de yoga ou de musculation, mais plus de la moitié des Français n'ont pas fait les 30 minutes de sport quotidien recommandées par les autorités de santé. Et pour cause, plus de sport collectif, des salles fermées au grand public, des sorties limitées à 1 heure. Alizée Cheboub reçoit Guillaume Sarr, médecin du sport à Grenoble, pour parler des effets de la sédentarité sur notre santé physique et mentale. Et en fin d'émission, Corentin Bémol nous emmène découvrir Grain de Sel, une association grenobloise qui accompagne les personnes marginalisées dans leur réinsertion sociale. Donation alimentaire, accès aux soins, moments conviviaux, ce sera dans le long format de la semaine. Vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h. 16h31, c'est l'heure du journal avec Shannon Marini. Bonjour Shannon.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous et à toutes. Il faut aller plus vite. Le directeur de l'OMS a appelé ce matin l'Europe à accélérer sa campagne de vaccination. Pour l'instant, seulement 2% des Européens ont reçu une première dose. On vous explique pourquoi la vaccination est aussi lente en France dans ce journal. Le Covid fait parfois oublier les autres maladies, mais elles n'ont pas disparu avec la crise. Un nouveau plan cancer a été présenté hier. Il prévoit de réduire le droit à l'oubli de 10 à 8 ans. Pour demander un prêt, quand on a eu un cancer, il faut déclarer son ancienne maladie, ce qui peut refroidir les banques. Vous entendrez le président de la commission médicale de la Ligue contre le cancer en Isère qui veut aller plus loin et abaisser ce droit à l'oubli à 5 ans. En fin de journal, on s'intéressera à une conséquence positive de la crise sanitaire. Écrivains et amateurs ont été inspirés par la situation inédite que nous vivons depuis maintenant un an. Les maisons d'édition grenobloises ont enregistré une hausse du nombre de manuscrits reçus. L'épidémie de Covid-19 est mal contrôlée, selon le directeur médical de crise de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Hier soir, Jean Castex a annoncé que la situation ne justifiait pas un nouveau confinement. Mais le Premier ministre a demandé un renforcement du télétravail. Un tiers des travailleurs pouvant travailler depuis chez eux ne le font pas, d'après le gouvernement. Mais la règle d'un jour en entreprise pour les actifs qui télétravaillent depuis tous les jours de la semaine reste d'actualité pour ceux qui se sentent isolés. Pas de nouveau reconfinement, sauf à Mayotte, pour au moins 3 semaines à partir de ce soir, où les variants britanniques et sud-africains inquiètent. En métropole, la situation est aussi préoccupante. On comptait 28 000 patients Covid dans les hôpitaux hier, un chiffre qui se rapproche des pics du printemps et de l'automne dernier. Les variants plus contagieux progressent eux aussi. En une vingtaine de jours, le variant britannique est passé de 3% des cas positifs à 14% la semaine dernière. Dans ce contexte, le directeur de l'OMS a appelé ce matin l'Europe à accélérer sa campagne de vaccination. Il s'est inquiété des mutations des variants, alors que pour l'instant, à peine plus de 2% des Européens ont reçu une première dose. Lou Momège, en France aussi, la vaccination avance lentement.
Oui, à titre d'exemple, le Royaume-Uni vaccine en 3 jours autant que la France en 5 semaines. Pour l'instant, à peine 139 000 Français ont reçu les 2 doses du vaccin. Alors si la France met autant de temps à vacciner, c'est en partie un problème de précaution. Le vaccin AstraZeneca a été autorisé en début de semaine, mais déconseillé aux plus de 65 ans, faute de tests cliniques. Alors qu'au Royaume-Uni, on utilise ce vaccin depuis près d'un mois. Les injections de la société franco-autrichienne Valneva, elles, devraient être autorisées fin 2021, mais l'Union européenne et donc la France ne pourront en bénéficier qu'en 2022, encore une fois après le Royaume-Uni, qui a financé une partie des recherches. Autre justification pour la lenteur des vaccinations, la stratégie du gouvernement est de conserver les vaccins pour effectuer les 2 injections dans les plus courts délais, plutôt que de multiplier les distributions des premières doses.
Merci Lou. Le Covid fait parfois oublier les autres maladies, mais elles n'ont pas disparu avec la crise. Un nouveau plan cancer a été présenté hier. Il prévoit de réduire le droit à l'oubli de 10 à 8 ans. Parfois, pour demander un prêt quand on a eu un cancer, il faut déclarer son ancienne maladie, ce qui peut refroidir les banques. Pour Gabriel Claude Girona, le président de la commission médicale de la Ligue contre le cancer en Isère, il faut aller plus loin et abaisser ce droit à l'oubli à 5 ans.
Parce que j'avais des des patients qui, remplissant une demande d'emploi ou une fiche administrative, avouaient, en toute honnêteté intellectuelle, avoir eu un petit cancer qui a été traité, qui n'a eu aucune suite depuis 10 ans. Mais dès que le mot était cité sur la fiche, elle n'était plus retenue. Et il faut absolument que l'on prenne en compte le fait qu'un cancer qui a été traité, on considère qu'au bout de 5 ans, ça n'est pas une rémission, mais c'est une guérison. C'est pourquoi cette notion de 5 ans en cancérologie est assez importante. Donc c'est un droit qui est naturel, qui est tout à fait fondé, et nous soutenons cela vraiment avec cœur.
Gabriel Claude Girona au micro de Cristal Delfos. La Russie a expulsé des diplomates allemands, suédois et polonais en début d'après-midi, ce que condamne le chef de la diplomatie européenne. Les relations entre l'Union européenne et la Russie sont au plus bas, selon lui. Josep Borrell est en visite à Moscou en pleine affaire Navalny. L'opposant au Kremlin est jugé, lui, à partir d'aujourd'hui pour diffamation. Mardi, il a déjà été condamné à 3 ans de prison. Son arrestation a provoqué une vague de manifestations. Des milliers de personnes ont été arrêtées. En Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi est assignée à résidence et en bonne santé, d'après le porte-parole de son parti ce matin. Lundi, le gouvernement de la prix Nobel de la paix a été renversé par l'armée, une parenthèse démocratique qui n'a duré que 5 ans. Plusieurs centaines de professeurs et d'étudiants se sont réunis devant l'université de Rangoon ce matin pour manifester contre ce coup d'État. Et à Grenoble, les maisons d'édition reçoivent un nombre impressionnant de manuscrits. Confinement et couvre-feu laissent du temps libre. Alors peut-être que vous avez aussi profité, comme beaucoup, pour vous lancer dans l'écriture de votre premier roman. La crise sanitaire semble avoir inspiré écrivain et amateur Colline Mollard.
C'est le cas pour Short Edition, spécialisée dans la littérature courte. Depuis le premier confinement, la maison d'édition reçoit 40% de manuscrits en plus. Caroline de Curveville est chargée de la communication.
On est toujours aussi sélectif, on en publie plus forcément puisqu'on en reçoit plus. On a eu beaucoup de nouveaux auteurs. Le fait d'être chez soi, bon, on n'a plus de temps de transport, etc. Donc on a plus de temps pour soi. Je pense que le côté complètement soudain et exceptionnel de cette crise a incité à écrire des choses, à livrer des choses, à raconter sa vie, à imaginer des histoires.
Des histoires en lien avec la crise sanitaire, Tot Édition en reçoit toutes les semaines, selon Pauline Perrazio, responsable d'édition.
On a reçu pas mal de choses, même de jeunes entre 15 et 18 ans qui faisaient un peu leur journal de confiné. On a eu aussi des manuscrits où en fait les auteurs, les autrices échangent des mails sur leur quotidien pendant le confinement.
Certains ont même opté pour le ton de l'humour. Hervé Kuhn, dessinateur grenoblois, va sortir le deuxième tome de sa BD « Ma vie de marmotte ».
On voit une marmotte qui se met du gel plusieurs fois dans la journée. Elle est angoissée par le Covid. Et du coup, il y a l'autre marmotte qui lui dit « Attention, à plus de 2 flacons par jour, tu deviens hydroalcoolique ». J'ai essayé de voir les choses de manière humoristique, en traitant de ces choses-là qui peuvent être un peu pesantes, pour dédramatiser un peu la chose.
Son ouvrage sortira en librairie au printemps prochain.
Et si vous voulez vous lancer, sachez que pour faciliter le télétravail, la plupart des éditeurs acceptent maintenant les manuscrits sous format numérique.
Merci Shannon pour ce journal. On se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Et dans un instant, Alizée Chebboub et son invité nous rejoindront en studio pour parler sport, santé et confinement. Vous écoutez Microcité, il est 16h38.
Take a little time and we'll leave it all behind and say, one more.
C'était Stay de Jackson Browne, une version enregistrée dans les studios de la BBC en 1978.
Le dossier de la semaine.
Le début de l'année, c'est le moment où on prend de bonnes résolutions, arrêter de boire, de fumer et surtout se mettre ou se remettre au sport. Mais cette année, la donne a un peu changé. Les cours de sport en intérieur se sont arrêtés une première fois en mars, avant de reprendre cet été. Et depuis début octobre, c'est reparti, couvre-feu, télétravail, fermeture des salles. Et forcément, ces mesures ont un impact sur l'activité des Français, Alizée Cheboub.
Alors oui, et pas qu'un peu, selon un récent sondage de l'ONAPS, l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité, 36% des adultes et 39% des seniors ont déclaré avoir diminué leur niveau d'activité physique. Mais certains des Français ont profité de ce temps aussi coincés à la maison pour renouveler leurs pratiques. 18% d'entre eux ont même fait du plus de sport. Alors quel effet a exactement l'épidémie sur notre activité physique? À quel point cela a un impact sur la santé des Français? Pour en parler, on reçoit Guillaume Sarre. Vous êtes médecin du sport à Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer sur une première question. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande aux adultes de faire au moins 2h30 d'activité physique modérée ou 1h15 d'activité élevée par semaine. Elle a rappelé récemment que la sédentarité renforce les causes de mortalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel effet a le manque d'activité sur le corps humain au niveau physique ?
Alors, on peut commencer par des considérations un petit peu historiques, en rappelant que la sédentarité, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire de l'espèce humaine. Initialement, le Homo sapiens est chasseur-cueilleur et devait marcher beaucoup et parfois même courir pour aller chasser ses proies. Et en fait, la génétique humaine s'est adaptée autour de cette dépense énergétique pratiquement obligatoire. Et on est fait pour une certaine quantité d'activité physique. À partir du moment où on est inactif et où on n'a pas d'activité physique, il n'y a pas de stimulation du génome et finalement le corps humain se retrouve dans une situation paradoxale d'inactivité à laquelle il n'est pas préparé. Le corps est prêt, il est préparé, il est conditionné pour encaisser une dépense énergétique minimale quotidienne. À partir du moment où il est en inactivité physique, il est à contre-emploi. Et donc il y a tout un ensemble de gènes qui ne sont pas stimulés et l'absence de stimulation génétique par l'activité physique donne finalement les conséquences qu'on observe sur le plan clinique.
Et justement, c'est quoi comme conséquence? Est-ce qu'il y a des maladies peut-être qui peuvent émerger ou ce genre de choses?
Alors oui, bien évidemment. Les premières études épidémiologiques qui ont été faites sur le lien entre santé et activité physique, elles remontent aux années 50. Ça a été fait en Angleterre. Il y a une étude assez célèbre qui a été faite sur les employés de la compagnie de bus de Londres. En fait, les épidémiologistes avaient remarqué que les chauffeurs de bus souffraient de deux fois plus d'infarctus du myocarde que les employés qui sont chargés d'emmener les usagers jusqu'à leur siège, de poinçonner les tickets. Et en fait, l'épidémiologiste avait fait le lien entre le fait que la différence entre les chauffeurs qui sont assis toute la journée sur leur siège et les employés qui passent leur journée à déambuler dans les bus, à marcher, à monter les escaliers parce que c'est des bus impériaux. Et historiquement, les premières études ont été faites sur le système cardiovasculaire. L'épidémiologiste anglais avait remarqué que plus on est inactif, plus on a de risques de faire d'accidents cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde et de souffrir d'hypertension. Ensuite, il y a d'autres études épidémiologiques qui sont venues confirmer ce premier constat. Et petit à petit, on s'est aperçu au fil des années et jusqu'à maintenant que la quantité de systèmes qui étaient touchés par l'inactivité physique est beaucoup plus large que simplement le système cardiovasculaire. En fait, tous les systèmes souffrent du manque d'activité physique. Le système rénal, le système immunitaire, le système psychique également, évidemment le système musculo-squelettique. En gros, on n'est pas fait pour être inactif. On est fait pour être actif et l'inactivité physique donne les pathologies cardiovasculaires qu'on connaît tous, c'est-à-dire infarctus, hypertension, les pathologies métaboliques qu'on connaît tous également, le diabète, les problèmes de dyslipidémie, c'est-à-dire l'excès de cholestérol et de graisse, le surpoids, tout ce qui va être effectivement insuffisance rénale. Bon, bref, tous les systèmes peuvent souffrir du manque d'activité physique.
Et au niveau psychique aussi, notamment, on a vu pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui faisaient des insomnies parce que finalement, ils ne se dépensaient pas assez dans la journée.
Oui, alors au niveau psychique, c'est très compliqué de faire la différence entre le manque d'activité physique et l'enfermement. Mais avant même le confinement, on avait remarqué que les pathologies psychiatriques sont mieux contrôlées chez les patients qui ont une activité physique régulière.
D'accord. Donc, et on voit aussi un peu que les mineurs donc, ont été longtemps épargnés donc, par cette baisse d'activité. Ils étaient les seuls à avoir encore le droit de pratiquer des activités scolaires ou extrascolaires en salle. Mais bon, depuis le 18 janvier, le sport en intérieur est interdit pour eux aussi. Lara est professeure d'EPS dans un collège lyonnais. À cause du manque d'équipement sportif en extérieur, elle est parfois obligée de modifier ses cours. La course à pied et les parties de basket sont alors remplacées par des projections de films et des exposés en classe. Pas vraiment le meilleur moyen pour se défouler.
Dans mon équipe, on est 6 profs d'EPS, donc on s'est retrouvés tous dehors. Sauf que bah, dans notre établissement, on n'a pas les infrastructures suffisantes. On a seulement un parc à côté du collège et malheureusement, il y a déjà plein d'autres collèges et lycées qui ont accès. Du coup, j'ai de nombreuses classes où je suis obligée de faire des cours à l'intérieur. Donc, c'est parfois 2 heures en classe, 4 heures en classe dans la semaine. Pour les 6e, ça peut plutôt bien se passer. Parce que j'arrive à leur mettre des vidéos qui sont un peu plus attractives et j'arrive à avoir un échange avec eux. Par contre, toutes les classes qui sont des classes de 3e, c'est plus complexe. J'ai eu, par exemple, certains refus de voir venir encore en classe alors qu'ils sont toute la semaine assis sur une chaise. À chaque fois qu'on dit qu'on va en classe, c'est la déception.
Alors en plus, les élèves de Lara font partie d'une section de sport renforcé. Donc à cause des conditions actuelles, certains d'entre eux sont passés de 20 heures à seulement 4 heures de sport par semaine. Guillaume Sarr, quel effet a une diminution si rapide de l'activité et en particulier sur des jeunes comme ça en pleine croissance ?
Alors le lien entre activité physique et attention, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué avant même la crise du Covid. Il y a eu une expérience que vous connaissez peut-être qui a consisté à mettre dans une classe, dans une école, des vélos d'appartement et d'autoriser les enfants à aller pédaler tout simplement sur le vélo d'appartement quand ils le souhaitaient pendant la classe, voire même à suivre la classe dans le vélo d'appartement. Et on a noté effectivement que chez ces enfants, il y avait une attention qui était bien meilleure. En fait, là encore, tout se passe comme si il y avait une certaine dose d'activité physique nécessaire pour maintenir l'attention.
Donc justement, cette activité physique sportive, elle est importante bien sûr pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui empathisent particulièrement de la situation. Ce sont par exemple les sportifs de haut niveau ou les étudiants en filière sportive. Cette semaine, on a pu suivre Alice lors de son entraînement. Elle étudie le sport en STAPS et elle a donc, elle, eu une dérogation pour se rendre en salle de sport. Mais pour elle, cela ne suffit pas.
Je tiens pas plus de 20 secondes. Hein. Aujourd'hui, ça maintient juste en forme physiquement, mais j'ai aucune progression. En fait, j'en m'empêche juste de régresser. Donc c'est extrêmement frustrant.
On n'a plus aucune pratique. Toutes nos règles de pratique ont été totalement neutralisées. On n'a plus non plus la possibilité de faire du sport fédéral donc, dans notre club, ou alors c'est très réduit. Et du coup, bah, toutes les compétitions qu'on est censé faire pour STAPS, c'est tout supprimé. L'avantage que j'ai moi, c'est que j'ai réussi à trouver cette salle, donc ça me maintient un petit peu, mais mon sport, c'est le saut à la perche, et aujourd'hui, bah, je ne fais pas de saut à la perche.
Guillaume Sarr, vous avez entendu ce témoignage d'Alice qui est étudiante en STAPS. Est-ce que vous avez le sentiment que vos patients y partagent ce sentiment de lassitude ou de stagnation ?
Oui, bien sûr. La préparation physique, enfin, votre étudiante dit très bien qu'en fait, elle a l'impression de stagner, voire même de régresser. Il est bien évident que l'essentiel de la stratégie consiste effectivement à trouver quelque chose de palliatif pour maintenir un petit peu le niveau physique, tout en sachant que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas de compétition. Donc la préparation physique d'un athlète de haut niveau, comme un perchiste en l'occurrence, une perchiste, il y a une partie préparation physique générale qui va être parfois un peu compliqué, mais qui peut être faisable. Par contre, effectivement, la préparation spécifique va être plutôt compliquée. La vraie différence, en fait, elle est entre les sportifs professionnels qui ont le droit de s'entraîner, les rugbymen, les cyclistes. Bon, voilà, les sportifs professionnels ont une autorisation de continuer à s'entraîner. Pour les sportifs amateurs, là encore, c'est effectivement bien plus compliqué. Ouais.
Et on va rester un peu sur vos patients. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous avez vraiment vu un changement depuis l'épidémie, sur les demandes qu'ils ont auprès de vous, sur les problèmes aussi qu'ils ont et les raisons pour lesquelles ils viennent vous voir ?
Alors, dans ma patientèle, tout ce qui est pathologie locomotrice, il y a eu une modification, je dirais, de la pathologie que je peux observer chez mes patients. Avant le confinement, j'avais beaucoup de patients avec des pathologies de surutilisation, des gens qui courent beaucoup, qui courent mal, qui font du sport de manière parfois un peu excessive et qui développent des tendinites, qui développent des douleurs articulaires qui sont dues à de la surutilisation. À partir du premier confinement, j'ai vu apparaître en fait des pathologies qui sont plus liées à de la sous-utilisation. Les patients, en fait, par déficit d'activité physique spontanée, ils avaient un déconditionnement musculaire au niveau du dos, au niveau des genoux. Et ça se traduisait par des douleurs un petit peu, liées à finalement des instabilités articulaires qui n'étaient pas super bien stabilisées. Donc ces patients, en fait, cliniquement, ils présentaient des douleurs de dos qui étaient liées au fait que le gainage a diminué, la qualité du système musculaire est moins bonne. Et donc, finalement, il y a des mouvements d'instabilité articulaire qui génèrent de la douleur. Ça, c'est le premier cas. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est les patients qui n'étaient pas forcément très sportifs à la base. Au moment du confinement, on les a autorisés à aller s'entraîner une heure par jour. Donc, ils ont chaussé les baskets. Et ils ont développé des pathologies qui sont liées à la pratique d'une activité dont ils n'ont absolument pas l'habitude sans avoir été conditionnés à le faire.
Donc on précise juste que donc le déconditionnement musculaire, c'est la perte finalement de muscles, c'est ça, c'est le muscle qui diminue, donc qui peut moins soutenir les articulations.
L'ensemble du système se déconditionne, que ce soit le système musculaire ou également le système cardiovasculaire.
Alors maintenant, on va aborder un dernier thème, donc c'est le sport sur ordonnance. Depuis octobre, il y a 4200 salles de sport qui ont fermé, mais certaines restent quand même ouvertes ou accessibles à un public dit prioritaire, par exemple les sportifs professionnels, les étudiants, comme on a entendu avant avec Alice, mais aussi les personnes munies d'une ordonnance médicale. Donc avant de vous poser des questions à ce sujet, Guillaume Sarr, Lucille Bèze va faire le point sur cette pratique qui se répand de plus en plus avec les fermetures des salles de sport.
Oui, alors on appelle ça la thérapie par le sport. Donc votre médecin peut vous prescrire de l'activité physique. Mais attention, ça ne concerne pas tout le monde. Les conditions dans lesquelles on peut se faire prescrire du sport sont très strictes et elles sont précisées par un décret du 29 octobre 2020. Seules les personnes souffrant d'une affection longue durée sont concernées. Il s'agit entre autres du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, de la dépression ou encore de certaines formes de cancer. Au total, une trentaine de pathologies sont concernées. La ministre des Sports l'avait d'ailleurs rappelé lors du deuxième confinement, il ne s'agit pas de faire des ordonnances de complaisance, comme elle les nomme, c'est-à-dire de prescrire à tout va, par exemple, à ceux qui sont frustrés de ne plus pouvoir se rendre dans leur salle de sport préférée. Reste à savoir si ces règles sont respectées. Il est tout à fait possible pour un médecin de faire des ordonnances à des patients qui ne souffrent d'aucune pathologie de longue durée. À ce moment-là, pour les salles de sport, c'est très difficile de vérifier.
Et donc vous, Guillaume Sarr, est-ce que vous pratiquez cette ordonnance pour autoriser les gens à faire du sport? Et si oui, pour quel type de patient?
Alors vous savez, la notion d'ordonnance de complaisance, elle fait sourire parce que si on part du principe que l'inactivité physique est génératrice de pathologie, la notion d'ordonnance de complaisance, elle tombe d'elle-même. C'est-à-dire que si on veut avoir une vraie politique de prévention, en termes sanitaires, effectivement, bien sûr, il faut encourager largement la pratique de l'activité physique et sportive. Si la seule façon de le faire, c'est de prescrire de l'activité physique en salle, alors oui, effectivement, je ne vois pas de raison d'interdire la prescription d'activité physique à des gens qui ne sont pas malades, mais qui risquent de le devenir, bien évidemment. Maintenant, il y a bien évidemment toutes les pathologies qui sont liées au mode de vie, c'est-à-dire au sens large, pas seulement le déficit d'activité physique, mais également une mauvaise alimentation. Chez ces patients-là, bien évidemment, les diabétiques, les hypertendus, les obèses, oui, évidemment, on va prescrire une activité physique thérapeutique. Et moi, je la prescris également beaucoup pour précisément les patients qui ont des pathologies, des affections locomotrices, donc douleurs de dos, douleurs de genoux, qui sont en lien avec l'inactivité. J'en vois quand même pas mal.
Merci Alizée Chaboux pour ce dossier, merci Lucille et merci Guillaume Sarr d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin du sport à Grenoble et vous alertez sur les risques de la sédentarité à la fois sur notre santé psychologique et physique. Il est 16h55 sur Campus Grenoble.
Microcité en direct jusqu'à 17h.
Le nombre de personnes sans domicile fixe en France a doublé en 10 ans. Selon la Fondation Abbé Pierre, 300 000 personnes vivaient dans la rue en 2020. Face à cette hausse de l'exclusion sociale et de la précarité, des initiatives se sont développées pour aider les personnes en galère. C'est le cas de Grain de sel hors les murs à Grenoble. Depuis 2011, l'association catholique offre un toit et accompagne les personnes en grande précarité. Corentin Bémol.
Ah, ça va être l'heure d'aller à table.
Fourchette en main, les bénévoles et 5 personnes qui hébergent l'association se réunissent comme tous les soirs pour un repas de famille.
Du riz avec des haricots rouges, de la viande.
Claire, la madré comme on l'appelle ici, a fondé Grain de sel hors les murs en 2011. À l'origine de cette initiative, un drame familial qui l'a profondément marqué.
Lorsque j'étais enfant, ma sœur s'est fait kidnapper et ça a créé en elle des souffrances qui, par la suite, a provoqué une exclusion dans son parcours de scolarité. Je me suis dit, mais je veux vraiment aider les personnes qui vivent cette exclusion à s'inclure à nouveau dans la société, dans le groupe.
Le but de l'association, permettre aux personnes en grande précarité de reprendre confiance en elles et de faire confiance aux autres.
La plupart des personnes qui viennent de la rue n'ont pas confiance dans l'autre. Ils ont souvent que des potes de galère, des potes d'addiction. Donc ici, ils réapprennent à fréquenter des personnes qui vont les tirer vers le haut, vers un but, vers un projet. Des fois, on part en vacances, des fois, on fait des activités manuelles ou on sort. C'est une famille pour les gens qui n'en ont pas. Et c'est une famille pour retrouver goût à sa vie.
Le goût à la vie, Thomas l'a retrouvé en venant ici. Il a vécu 20 ans dans la rue avant de croiser le chemin de l'association.
Ça m'a appris, ça m'a donné un rythme. Un rythme et un but. Pas me dire je vis pour vivre et je me lève et je prends un médicament pour me droguer. Aider les gens, moi, ça m'apporte beaucoup de... Ça m'aide pour moi aussi, en fait. Je vois que je suis quand même capable de faire des choses. On me donne beaucoup de responsabilités maintenant. C'est un peu grâce à ce rythme, justement.
Même chose pour Lucas. Il a rencontré Claire en 2016 et elle a changé sa vie.
Elle m'a donné... un espoir. Moi, ça faisait un an et demi que j'étais au chômage. Je faisais à peu près n'importe quoi. Je traînais. C'était en plein hiver et j'ai rencontré Claire et elle m'a expédié dans une communauté qui s'appelle le Cénacolo. Et j'ai passé une année de joie là-bas. Un an qui m'a reboosté, qui m'a donné la foi. J'ai poursuivi ma route. Et depuis, quand ça va pas, et ben, je reviens au grain de sel prendre un petit coup de motif.
Dans le petit salon, une boîte est posée sur une table. Elle contient une couverture et un pigeon handicapé. C'est la mascotte de la maison.
Il s'appelle Diego. Tout le monde l'aime beaucoup et tout le monde en prend soin. Et quelque part, prendre soin d'un animal blessé qui a reçu les mêmes adjectifs que les personnes qui sont là, eh bien, ça a du sens. Ils prennent soin d'eux-mêmes quelque part.
Une maison atypique où ça débat, rit et pleure. En un mot commençant, la colloque du bonheur.
Merci Corentin pour ce joli reportage. 16h58, c'est sur Campus Grenoble. C'est l'heure du rappel des titres avec Shannon Marini.
François Asselineau a été mis en examen cet après-midi. Le président de l'UPR et ancien candidat à la présidentielle est accusé de harcèlement moral et agression sexuelle. Pas de nouvelles restrictions. Hier soir, Jean Castex a annoncé que la situation ne justifiait pas un nouveau confinement, ce que regrette le directeur médical de crise de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pour lui, l'épidémie de Covid-19 est mal contrôlée. Le Premier ministre a quand même demandé un renforcement du télétravail hier soir. Un tiers des travailleurs pouvant travailler depuis chez eux ne le font pas, d'après le gouvernement. Emmanuel Macron condamne cet après-midi l'expulsion de 3 diplomates européens par la Russie. Les relations entre l'Union européenne et le Kremlin sont au plus bas, selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui est en visite à Moscou en pleine affaire Navalny. L'opposant à Poutine, lui, est jugé à partir d'aujourd'hui pour diffamation. Son arrestation a provoqué une vague de manifestations. Des milliers de personnes ont été arrêtées.
Merci Shannon. 16h59, c'est déjà la fin de Microcité. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci également à Louis Oscovin pour la technique. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Microcité en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.